France Musique. C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
A woman must have money and a room of her own.
Et c'est cette nature qui m'a beaucoup porté des choses.
J'aime dire que je suis compositeur au sens de métier.
À toutes et à tous, nous avons commencé la semaine dernière un périple à travers le grand 19e siècle qui nous entraîne des années 1800 à la Belle Époque. C'est le deuxième volet de notre émission consacrée aux pionnières romantiques et nous accostons sur l'île de Gotland, la plus grande île de Suède située sur la Baltique. C'est ici que grandit Elfrida André, auprès d'un père médecin passionné de musique qui poussera ses deux filles à s'émanciper de tous les carcans imposés par une société encore largement conservatrice. L'aînée deviendra chanteuse d'opéra et la cadette, organiste, chef d'orchestre et compositrice. Un triple exploit. Elfrida André s'installe à Stockholm à l'âge de 14 ans. Elle étudie la composition à l'Académie royale de musique, mais ne peut intégrer en tant que femme la classe d'orgue. Elle prendra des cours privés et sera la première femme à obtenir le diplôme d'organiste à l'âge de 16 ans. Elle obtiendra même après 4 années de lutte et le soutien toujours inconditionnel de son père que les femmes puissent exercer ce métier d'organiste. Mais sa lutte ne s'arrêtera pas là et elle militera aussi pour l'accès des femmes au métier de télégraphiste auquel elle s'essayera elle-même. Mais il lui faut à présent s'imposer en tant que compositrice. Sa musique sera imprégnée de la tradition germanique de l'école de Leipzig. On peut l'entendre en particulier dans ses œuvres de musique de chambre, notamment dans ses trios. L'écriture de Mendelssohn joue un rôle décisif dans son écriture musicale. Elle fait d'ailleurs référence au compositeur dans son quintet avec piano en mi mineur, composé en 1865. Sur la dernière page de son manuscrit, on peut lire « Mendelssohn vit encore ». Le Quatuor de Stockholm et Lena Johnson au piano dans le quintet avec piano en mi mineur d'Elfrida André. Nous en écoutions le final. En 1867, Elfrida s'installe dans la ville de Göteborg. Événement majeur dans l'histoire de sa vie mais aussi dans l'histoire de la musique en Suède, elle obtient le poste d'organiste et de directrice musicale de la cathédrale Gustavi, s'imposant face à 7 candidats masculins. Malgré ce travail qui occupe la majeure partie de son temps, elle trouve encore le temps de composer. Elle aura signé une centaine d'œuvres, parmi lesquelles figurent de nombreuses pièces pour piano.
Thank you.
Le pianiste Oscar Ekberg dans les pièces d'Elfrida André, Sur l'eau, était suivi de Le soir. Si la compositrice suédoise a un rôle de pionnière et obtient des avancées majeures pour l'émancipation des femmes, il ne lui est pas aisé de s'imposer en tant que compositrice. Elle s'emploiera par tous les moyens à jouer et faire jouer sa musique. À son actif, elle a notamment 4 symphonies. Elle dirigera la 2e elle-même à Dresde en 1904.
Thank you.
l'Allegro risoluto de la deuxième symphonie d'Elfrida André, l'Orchestre symphonique de Stockholm et Gustav Sjögqvist à la baguette. Je vous propose de nous intéresser à une autre compositrice suédoise, Amanda Mayer. Nous sommes le 8 février 1876 à Leipzig. Le cœur battant de l'enseignement musical et la compositrice et violoniste Amanda Mayer crée son concerto pour violon avec l'orchestre du Gewandhaus. La Suédoise Amanda Mayer a connu une riche mais brève carrière puisque souffrant d'une maladie pulmonaire, elle mourra à Amsterdam à l'âge de 41 ans après avoir donné leur leçon de musique à ses deux jeunes fils. Ce jour-là, il faisait beau et elle se serait éteinte en douceur. Née dans la petite ville de Landskrona sur les rives de l'Øresund, ce détroit qui sépare la Suède du Danemark, Amanda Mayer débute le violon avec son père, pâtissier, mais qui avait obtenu un diplôme de l'Académie royale de musique de Stockholm. On imagine donc que c'est dans les bonnes odeurs de brioche à la cannelle qu'elle a fait ses premières gammes, avant de prendre elle aussi le même chemin que son père et de rejoindre Stockholm à l'âge de 16 ans. Elle y étudia le violoncelle, l'orgue, l'esthétique, l'histoire de la musique, la composition et obtint les plus hautes récompenses avant de poursuivre ses études à Leipzig où elle rencontrera son futur mari, le violoniste Julius Röntgen. Elle aura deux enfants. Sa maternité et sa santé fragile mettront un terme à sa carrière publique de soliste. Mais à la maison, elle continue la musique en privé et joue pour des invités de marque comme le célèbre violoniste Joseph Joachim ou le pianiste Anton Rubinstein. Thank you. Le premier mouvement de la sonate pour violon d'Amanda Mayer par Cecilia Ziliakus et Bengt Furstberg. Amanda Mayer, compositrice suédoise dont la musique revient peu à peu au goût du jour, en particulier cette sonate pour violon et piano dont voici le deuxième mouvement, Andantino.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
Vous êtes toujours à l'écoute de France Musique et je vais vous parler d'une des seules Françaises à s'inscrire dans l'héritage de Fauré et de Debussy. Vous avez peut-être déjà entendu son nom, Mel Bonis, Mel comme Mélanie, comme Mélopée ou Mélodie. Mel surtout pour laisser planer le doute sur le genre de l'auteur. Ce sera donc pour la postérité aussi Mel Bonis. Juliette Hurel et Hélène Couvert dans le premier mouvement de la sonate pour flûte et piano de Mel Bonis. Mélanie Bonis, une compositrice née en 1858 à Paris, d'un père ouvrier horloger et d'une mère passementière. L'enfant est programmée pour devenir couturière, mais c'est sans compter sur son talent et sa curiosité. Elle va délaisser fil et aiguille au profit du piano qu'elle apprend en autodidacte, ce qui n'est pas forcément du goût de ses parents. Elle reproduit alors la mélodie de chansons qu'elle connaît. La fillette a déjà une très bonne oreille. Elle reçoit une éducation religieuse assez stricte et conservera tout au long de sa vie cette foi et cette piété. Des accents foréens dans cette barcarolle de Mel Bonis, magnifiquement interprétée en avant-première sur France Musique par le pianiste François Dumont, que vous pouvez également entendre dans le générique de cette émission. Cet enregistrement produit par le Palazzetto Bruzane paraîtra en mars 2023. Encore un peu de patience donc avant de pouvoir vous le procurer.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
Nous sommes toujours avec la compositrice Mel Bonis. Si elle étudie finalement au Conservatoire de Paris, elle ne pourra pas, elle non plus, accéder au prix de Rome qui n'est pas encore ouvert aux femmes. Elle sera élève de César Franck, apprendra l'harmonie, la composition auprès d'Auguste Basile qui écrira « Elle est la plus forte de la classe, mais la peur la paralyse ». C'est au conservatoire aussi qu'elle rencontrera le ténor Amédée Hettich, dont elle tombera éperdument amoureuse. Ses poésies à lui inspirent à la jeune femme de nombreuses mélodies, notamment une villanelle qui s'achève par ces mots « Aimez, aimez, vous êtes belle, et l'on ne sait aimer qu'un temps ». Il ne croyait pas si bien dire. Le couple sera séparé de force. Ses parents refusent la demande en mariage d'Hettich, lui préférant Albert Domange, veuf et riche industriel de 47 ans. Mais coup de théâtre, elle tombera bien des années plus tard enceinte de lui, de son premier amour. Elle confiera à l'enfant une petite Madeleine avant de la recueillir à la mort de son mari en 1918. À l'âge de 40 ans, Mel Bonis sera enfin reconnue par ses pairs grâce à son premier quatuor avec piano. Camille Saint-Saëns aurait déclaré à propos de cette œuvre qui date de 1905 « Je n'aurais jamais cru qu'une femme soit capable d'écrire cela. Elle connaît toutes les roueries du métier ».
Thank you.
Nous écoutions le moderato du quatuor avec piano numéro 1 de Melbonis par le quatuor Giardini. C'est avec cette œuvre que la compositrice accédera à une reconnaissance tardive. Elle sera la première femme à faire partie du bureau de la Société des compositeurs de musique en 1910, une consolation pour celle qui n'a pas pu concourir au prix de Rome. Mais 4 ans plus tard, la guerre arrive. Melbonis ne compose presque plus, dans l'attente fébrile et inquiète de ses fils partis pour le front. Elle trouve la force de composer la cathédrale blessée en 1915, une œuvre au caractère grave et majestueux. Mais à présent, elle se consacre à des pièces pédagogiques et des œuvres religieuses. Pour en savoir plus sur cette compositrice passionnante, je vous recommande vivement la lecture de l'ouvrage Melbonis, parcours d'une compositrice de la belle époque, paru chez Actes Sud. Ainsi s'achève notre programme du jour. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission, Dorothée Goll à la production, Félix Levaché à la réalisation et Olivier Dupré à la technique. Je vous invite également à retrouver tous les détails des œuvres et des interprètes sur le site francemusique.fr. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.